Europe 1. Au début du XXe siècle, Margaret Sanger commence à militer pour le contrôle des naissances. Cette infirmière de formation à la sensibilité socialiste considère qu'il faut aider les femmes, surtout les plus pauvres, à maîtriser leur fécondité pour mieux s'occuper de leurs enfants et moins fragiliser leur santé. Ses motivations sont donc économiques et sociales. Mais l'américaine Margaret Sanger est aussi séduite par les idées eugénistes très en vogue dans les années 1920-1930. Aujourd'hui, la mère du mouvement du planning familial est perçue comme une femme ambiguë. Et pourtant, elle était sincèrement féministe, progressiste. Elle voulait améliorer l'humanité. Mais à quel prix ? Je suis Virginie Giraud et je vous invite à me suivre au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Margaret Sanger, la créatrice controversée de la politique du contrôle des naissances. Nous sommes à New York au début des années 1910. Margaret Sanger est alors infirmière indépendante. Elle offre ses services aux femmes du quartier misérable du Lower East Side, au sud de Manhattan. Ici, les femmes qui ne savent rien de la santé sexuelle tombent constamment enceintes. Incapables de nourrir toutes ces petites bouches affamées, elles tentent d'avorter seules ou avec de l'aide. Elles boivent des poisons ou essayent de percer la poche des os. Les conséquences sur leur santé sont dramatiques, parfois mortelles. Margaret est très sensible à leur détresse. Sa propre mère est passée par là. Un jour, elle est appelée au chevet d'une jeune femme pour seconder un médecin. La malheureuse, une immigrée d'origine russe nommée Sadie Sachs, a essayé de faire passer son enfant toute seule, comme on dit à l'époque. Elle est au plus mal maintenant. Désespérée, Sadie demande au médecin comment on fait pour ne pas tomber enceinte. Le médecin lui répond simplement de demander à son mari de dormir sur le toit. Pour lui, à l'évidence, la conception est une fatalité et il n'y a que l'abstinence pour l'éviter. Margaret est bouleversée par la détresse de la jeune femme qui se tourne alors vers elle. Celle-ci la supplie. Quel est le secret pour ne pas tomber enceinte ? Elle promet de le garder pour elle, mais elle doit savoir. Qu'est-ce que Margaret peut bien lui répondre ? Elle n'est pas censée donner des produits anticonceptionnels et abortifs. Margaret Sanger apprend que sa pauvre patiente est morte 3 mois plus tard des suites de son avortement solitaire. Elle n'avait que 28 ans. Pour l'infirmière, c'est un électrochoc. Elle est maintenant déterminée, comme elle l'écrit dans son journal, à changer le destin des mères dont le malheur est aussi vaste que le ciel. Margaret naît dans une famille d'immigrés irlandais catholiques en 1879 à Corning, une petite ville de l'État de New York. Son père, Michael Higgins, est un artisan, un sculpteur de pierre spécialisé dans l'art funéraire. Mais ce n'est pas un homme très classique pour son époque. Il a commencé des études de médecine et de phrénologie, cette pseudo-science qui prétend décrire des caractéristiques humaines et des aptitudes en fonction de la forme du crâne. Il est aussi athée et favorable au droit de vote des femmes. Vu le personnage, on peut parier sans prendre trop de risques qu'il a poussé ses enfants à penser par eux-mêmes. La mère de Margaret va aussi avoir un grand impact dans sa vie, mais comme victime. Victime de 18 grossesses consécutives, dont 7 fausses couches. Elle meurt épuisée à l'âge de 50 ans. Grâce à l'aide de 2 de ses sœurs aînées, Margaret entreprend des études d'infirmière et commence à travailler en 1900 dans un hôpital. 2 ans plus tard, à presque 23 ans, elle épouse un jeune architecte d'origine juive allemande, William Sanger. La nouvelle Madame Sanger souffre de tuberculose. Elle arrête donc de travailler, met au monde 3 enfants, dont 2 fils qui survivront, et participe à la vie de sa paroisse. En 1911, la famille déménage dans New York. C'est là que Margaret reprend son activité d'infirmière, indépendante cette fois, dans le quartier pauvre du Lower East Side. Elle est constamment confrontée à la misère des femmes perpétuellement enceintes, cherchant souvent à avorter comme elles le peuvent ou subissant les décès précoces d'une partie de leurs enfants. Mais il en reste toujours trop pour espérer leur donner une éducation correcte et les nourrir à leur faim. Les femmes pauvres ne savent rien de la reproduction. Voilà pourquoi elles sont tout le temps enceintes. Et ce taux de natalité très élevé n'est rien d'autre que la promesse de la misère. A contrario, Les femmes des classes moyennes, des élites et même les prostituées se passent des trucs pour ne pas tomber enceinte. Abstinence ponctuelle, coït interrompu, pratiques non fécondantes ou plantes aux vertus purgatives, à condition d'avoir le bon dosage, tout est bon pour échapper au fléau des maternités non désirées. À la même époque, Margaret et son mari commencent à fréquenter des intellectuels de sensibilité socialiste. Depuis le milieu du XIXe siècle, ce courant politique travaille à l'amélioration des conditions de vie des ouvriers et défend le progrès social. D'une certaine manière, cette pensée contrecarre le libéralisme et le capitalisme effréné de la révolution industrielle qui allait parfois jusqu'à voir les ouvriers comme une simple force de travail bon marché et jetable une fois usée. Margaret est très proche de l'anarchiste Emma Goldman, dont elle admire les travaux, et c'est ainsi qu'elle devient elle-même une activiste féministe bien décidée à enseigner l'éducation sexuelle pour libérer les femmes des maternités non désirées. En 1912, elle écrit dans un journal socialiste un article intitulé « Tout ce que les filles devraient savoir » pour expliquer les bases de l'éducation sexuelle aux femmes. Deux ans plus tard, en 1914, elle publie « La femme rebelle », un journal où elle expose ses idées féministes et médicales. Son slogan « Ni Dieu ni maître » reflète ses pensées matérialistes et anarchistes inscrites dans l'air du temps. Elle y incite à défier la loi Comstock de 1873 qui interdit la diffusion d'informations, de littérature ou d'images jugées obscènes ou immorales parce qu'elle pousserait les gens à la débauche. Cette loi interdit donc la diffusion d'informations concrètes sur la reproduction, une loi qui, selon Margaret, porte préjudice aux femmes et surtout aux plus pauvres. Dans un autre article paru la même année, elle fustige les féministes timorées de la bonne société attachées à leur réputation et qui, sans sourciller, confient leurs enfants à des nounous pauvres qui n'ont pas accès aux mêmes possibilités qu'elles. Elle pousse donc les femmes à un mouvement de révolte pour conquérir tous les droits, et l'un des moyens de les acquérir est le contrôle des naissances qui devient le cœur de son combat. C'est d'ailleurs elle qui forge l'expression « birth control ». Évidemment, de telles positions lui valent des démêlés avec la justice. Alors Margaret va se mettre au vert quelque temps en Angleterre. C'est là qu'elle noue des relations avec des scientifiques néo-malthusiens. Là, il faut qu'on mette notre récit sur pause pour expliquer deux, trois notions essentielles. D'abord, Malthus est un intellectuel anglais de la première moitié du XIXe siècle. Pour lui, toute société humaine ou animale doit réguler ses naissances pour s'assurer une nourriture suffisante pour vivre. Ces régulateurs peuvent être naturels, comme les épidémies, les famines, ou préventifs, c'est-à-dire déterminés par des choix politiques et sociaux passant par le célibat ou la limitation des naissances. À partir de sa pensée qui est purement descriptive, beaucoup d'intellectuels de tout poil, les néo-malthusiens, prônent une politique de réduction de la natalité, soit pour le confort des hommes, parce que moins de naissances, c'est plus de ressources, soit pour le bien de la planète, ça, c'est le point de vue de certains écologistes modernes. Quoi qu'il en soit, pour une grosse partie des intellectuels du début du XXe siècle, bercés par le malthusianisme, le contrôle des naissances, c'est forcément une bonne chose. Ensuite, le monde de Margaret Sanger, c'est celui de la fin de la révolution industrielle. L'économie a fondamentalement changé grâce à la machine à vapeur et au boom de la mécanique. Une partie de la population paysanne d'autrefois s'est transformée en classe ouvrière urbaine souvent très pauvre. Cette vaste classe forme le fameux prolétariat, une force ouvrière précaire qui, il faut bien le reconnaître, en l'absence de droits du travail satisfaisants, enrichissent les détenteurs du capital à leur propre détriment. Pour Margaret, si la masse ouvrière se réduit, elle accède plus facilement à l'ascension sociale, parce que les parents peuvent investir sur l'éducation d'un ou deux enfants, ce qui n'est pas le cas quand on en a 5, 8 ou 10. Et si la masse ouvrière se réduit, le coût du travail augmente. À ce stade, le raisonnement est d'une simplicité biblique. Enfin, cette société qui achève sa révolution industrielle est passionnée par la science qui doit permettre de tout comprendre et de résoudre tous les problèmes. Les recherches de Darwin sur l'évolution des espèces ont abouti au darwinisme social et au début des travaux sur la génétique. Margaret évolue à une époque où on croit aux « gènes de » qui vous transmet tout un tas de caractéristiques allant de la couleur de vos yeux à l'alcoolisme atavique, surtout chez les pauvres. À son époque, dans l'esprit d'une bonne partie des gens, tout est génétique. On ne peut donc échapper à aucun déterminisme. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une intrication subtile entre l'inné et l'acquis, les caractéristiques transmises par vos gènes et ce que vous apporte votre environnement. Mais tout cela est si étroitement lié qu'on a encore du mal à tout expliquer. Mais à l'époque de Margaret, il n'y a aucun doute. À l'époque, la biologie permet d'expliquer pourquoi les pauvres sont pauvres. Ils sont plus idiots, plus pervers, moins éduqués. La pauvreté est donc criminogène par nature. La réponse au problème de la pauvreté est aux yeux de bien des intellectuels à ce moment-là, l'eugénisme. Au sens étymologique du terme, l'eugénisme, c'est la bonne naissance. Ça veut dire que pour Margaret Sanger, il faut pratiquer une politique eugéniste pour améliorer la race humaine et ses conditions de vie. Bon, oui, je vous l'accorde, on peut trouver ça choquant aujourd'hui, mais c'est un état d'esprit qu'on trouve alors beaucoup dans la classe moyenne et la classe moyenne supérieure anglo-saxonne et protestante, chez des personnes qui, parce qu'elles sont scientifiques ou intellectuelles, se perçoivent comme la nouvelle élite. En 1916, Margaret Sanger s'installe à Brooklyn, où elle ouvre la première clinique de contrôle des naissances. C'est le tout premier centre de ce qui deviendra plus tard le planning familial. Des médecins et des travailleurs sociaux commencent à diffuser des moyens de contraception, comme des diaphragmes, mais aussi des PCR, des sortes de tampons médicaux, et des éponges pour empêcher les spermatozoïdes d'entrer dans l'utérus et de se frayer un chemin jusqu'à l'ovule. Son œuvre lui vaut un court séjour en prison pour outrage à la fameuse loi Comstock dont je vous parlais tout à l'heure. À peine sortie de prison, elle poursuit son œuvre avec la création de l'American Birth Control League. Elle développe alors tout un réseau de professionnels de santé et d'intellectuels favorables à ses idées partout dans le monde. C'est aussi à cette époque, au début des années 1920, que ses convictions eugénistes se font plus intenses. Attention, Margaret Sanger ne pense pas à l'eugénisme en termes de race blanche, race noire, race juive, etc., comme on disait à l'époque. Pour elle, les humains forment une seule race et c'est cette race tout entière que l'on peut améliorer. Pour cela, il faut espacer les naissances afin de mettre au monde des bébés robustes et que la mère puisse dégager le temps et l'énergie nécessaires pour bien s'en occuper avec l'aide de son entourage. Cette vision de la natalité n'empêche pas, selon elle, les femmes en bonne santé, vivant dans les classes aisées, de faire plus d'enfants que les femmes pauvres et en mauvaise santé. Pour elle, ça relève même de la logique biologique et sociale. Vous comprenez mieux maintenant la complexité de son raisonnement. Pour continuer à améliorer la race humaine, Margaret Sanger préconise aussi la stérilisation des, je cite, « faibles d'esprit, des fous, des syphilitiques », ainsi que des personnes ayant des handicaps physiques. En d'autres termes, toute personne susceptible d'avoir un capital génétique et social de mauvaise qualité ne devrait pas pouvoir se reproduire. Pour elle, on réduirait ainsi la misère en empêchant les indigents d'avoir des enfants, mais à ma connaissance, elle ne plaide pas pour la stérilisation forcée. Pour elle, l'encouragement par la politique et la connaissance de l'éducation sexuelle doivent servir le contrôle des naissances. C'est ce qu'on appelle l'eugénisme positif. On sait qu'aux États-Unis, au début du XXe siècle, les Noirs forment une large frange de la population la plus précaire. C'est pour cette raison que certains ont cru que Margaret Sanger voulait faire disparaître les Noirs. Les historiens savent aujourd'hui que c'est faux et que la militante n'adhérait pas une seule seconde au versant raciste de l'eugénisme. Elle voyait la femme noire comme particulièrement fragile, comme une triple victime de la misogynie, du racisme et de la pauvreté. Pour elle, donner les moyens aux femmes noires de limiter leur grossesse était un outil d'ascension sociale. Elle est donc très prudente quand elle aborde ces questions. La meilleure caution de bonne foi qu'elle peut avoir est le soutien de Martin Luther King, l'un des plus grands défenseurs des droits civiques pour les Noirs aux États-Unis, qui était en parfait accord avec les positions défendues par Margaret Sanger. Alors que la politique de contrôle des naissances commence à trouver un écho favorable en Occident, les nazis dévoient l'eugénisme positif dans les années 1940 avec leur politique racialiste et leur volonté d'exterminer les personnes, je cite, « dont la vie ne vaut pas la peine d'être vécue ». Dès lors, l'eugénisme devient une idéologie funeste qui ne pourrait servir que des projets mortifères. Une autre preuve du non-racisme de Margaret Sanger, c'est son idée de mettre la natalité en pause pour toute l'Amérique pendant 2 ans. Cette mesure laisserait, selon elle, au pays le temps de se relever de la Grande Dépression consécutive au krach de 1929. Elle est toujours mue par la même logique malthusienne. si la nourriture manque, si des familles entières ne peuvent plus se nourrir, il faut arrêter temporairement de procréer pour le bien de l'humanité. Bon, vous vous doutez bien que les pouvoirs publics ne l'ont pas écouté. Margaret Sanger prend en quelque sorte sa retraite en 1942, mais elle continue à militer et reste proche des mouvements de planification familiale. Au début des années 1960, elle est l'un des plus grands soutiens de la légalisation de la pilule contraceptive, une révolution qui a changé la vie des femmes et permis l'accès à une sexualité presque aussi libre que celle des hommes. En France, le premier planning familial ouvre ses portes en 1956 à Paris. L'association qui pilote le projet s'appelle alors Maternité Heureuse. Elle dispense l'accès à l'information sur la santé sexuelle et milite pour le droit à l'IVG et à la contraception. Margaret Sanger meurt en 1966 à l'âge de 86 ans. Après une vie de combat, elle a vu la vie des femmes changer et elle y a largement contribué. Aujourd'hui, on la regarde par le prisme des valeurs de notre présent et son action à visée eugénique peut être mal interprétée. Ce serait pourtant bien injuste de lui reprocher ses combats. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio et c'est aussi un travail d'équipe. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la composition des musiques originales et la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales additionnelles, Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Nathan Laporte. Pour ce récit, j'ai cédé ma plume à Sandrine Brugot. Quant à moi, je vous retrouve tous les jours sur votre plateforme de podcast préférée et sur l'appli Europe 1 et chaque week-end à 15h sur notre antenne. À bientôt !